en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Lors de la séance de l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 28 mars 2011, le président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, a évoqué devant ses confrères la notion de compétitivité et la nécessaire surveillance mutuelle des pays de la zone euro. Jean-Claude Trichet a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques le 22 février 2010, au fauteuil laissé vacant par le décès de Pierre Messmer. Il est président de la BCE depuis novembre 2003. Entrez dans la salle des séances pour écouter, grâce à Canal Académie, l'intégralité de sa communication.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, mes chers confrères, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir d'avoir été invité par notre président à réfléchir avec vous à la question de la surveillance de la compétitivité dans une union monétaire et plus précisément dans l'union économique et monétaire européenne. Le terme de compétitivité suscite parfois des commentaires très contrastés. En effet, la compétitivité comme capacité à faire face à la concurrence dans le cadre d'une compétition donne à penser qu'il y a nécessairement des gagnants et des perdants. Et si certains peuvent être stimulés par la compétition dans l'espoir d'un gain ou d'une victoire, ou pour le plaisir qu'elle procure, d'autres redoutent davantage le risque de perte. L'appréhension d'un déclassement peut même pousser à une certaine forme de repli sur soi ou, en matière commerciale, de tentation protectionniste. Dans une économie ouverte, une telle forme de repli sur soi constituerait un non-sens. Et pour ce qui est du protectionnisme en particulier, Montesquieu nous rappelle dans De l'esprit des lois que commerce et paix sont intimement liés et que, je cite, « deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes ». Fin de citation. C'est d'ailleurs en particulier, bien sûr, sur cette idée de la création d'un marché unique qui est fondé à son départ, la construction européenne, dont le marché unique avec une monnaie unique est, au moment où je parle, l'aboutissement économique. Dans une union monétaire, il s'agit de converger pour gagner ensemble. La notion de compétitivité est indissociable de la notion de convergence. Bien sûr, des échappées par certaines économies sont toujours possibles et normales dans une union monétaire, rendant l'avancée de l'ensemble plus rapide. Les vainqueurs d'étapes ne sont d'ailleurs pas nécessairement toujours les mêmes, comme les 12 premières années de l'euro nous l'ont montré. Dans mon exposé aujourd'hui, je voudrais d'abord me concentrer sur les grands enjeux de la compétitivité pour les économies nationales en général et pour les membres de la zone euro en particulier. Ensuite, je souhaiterais passer en revue certaines idées qui ne sont pas justes, à mon avis, concernant la compétitivité et auxquelles je me suis heurté au fil du temps. Et enfin, je voudrais exposer les principaux éléments d'un cadre d'analyse et d'action relatif à la compétitivité. Et j'aborderai les implications qui en découlent aux yeux de la Banque centrale européenne pour les propositions actuelles de renforcement de la surveillance macroéconomique du point de vue de la zone euro. Les enjeux de la compétitivité, d'abord. En matière économique, que signifie la notion de compétitivité? Que signifie-t-elle exactement pour la zone euro? Et quel rôle doit-elle jouer? Telles sont des questions qui sont centrales pour tout responsable s'agissant de politique économique. Elles ne sont pas évidemment nouvelles pour notre pays et elles ne sont certainement pas nouvelles pour ceux qui ont participé pendant longtemps, comme ça a été le cas de la France, à la construction européenne, en particulier dans le contexte du mécanisme de change européen. J'avais moi-même publié un article sur la désinflation compétitive dans notre pays qui faisait le point à la fois sur le passé et sur l'avenir. Ce sont des questions centrales pour l'avenir des économies nationales en Europe et particulièrement importantes pour celles qui constituent notre union économique et monétaire. La compétitivité elle-même est un concept qui est assez difficile à cerner et qui est souvent utilisé dans le langage courant pour décrire des réalités très différentes, qu'il s'agisse de parts de marché à l'exportation, de taxation des entreprises, de niveau des contributions sociales, d'indexation des salaires, d'investissement dans les hautes technologies ou d'accroissement de la productivité. Il me semble qu'une définition correcte de la compétitivité serait la capacité d'un pays d'améliorer de façon durable son niveau de vie en termes économiques, le niveau de vie de ses concitoyens, tout en favorisant les créations d'emplois durables les plus nombreuses dans une économie ouverte. Aussi, de bons résultats en termes de compétitivité prix et de compétitivité coût sont une condition primordiale du relèvement du niveau de vie et de la création d'emplois dans une économie ouverte. Les exportations sont bien entendu un élément très important, mais la compétitivité touche à tous les secteurs de l'économie, les biens et les services publics comme les biens et services privés, les biens et services exportables comme les biens et services non exportables, les sociétés offrant des services financiers comme les sociétés œuvrant dans tous les domaines de l'économie réelle et, je dirais, les ménages comme les gouvernements. Nos économies présentent des facettes extrêmement différentes. Les moyens d'atteindre une croissance économique soutenable à long terme et de créer des emplois nombreux sont eux aussi nombreux. Je dois dire que l'objectif d'une croissance soutenable à long terme pour une économie de la zone euro doit évidemment, même si ce n'est pas le sujet central de cet exposé, doit être replacé dans un contexte à la fois européen et mondial. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne est elle-même la plus vaste économie, l'économie des 27, et le plus grand partenaire commercial du monde. Le marché unique européen est le plus grand partenaire commercial du monde. Il est donc particulièrement bienvenu qu'il ait conçu sa propre stratégie en vue de soutenir son potentiel de croissance dans l'économie mondialisée de demain. Cette stratégie s'appelle, dans le jargon européen, la stratégie Europe 2020. Elle s'articule autour de trois grands domaines, comme vous le savez, l'éducation, la recherche et l'innovation, l'efficacité des ressources et les niveaux d'emploi et de cohésion sociale élevés. Tous ces éléments sont essentiels pour la compétitivité européenne dans une économie mondialisée et nous soutenons résolument la stratégie Europe 2020. Je voudrais m'intéresser plus particulièrement aujourd'hui à la compétitivité dans sa dimension interne à l'union économique et monétaire, c'est-à-dire au niveau de la zone euro. Dans une union économique et monétaire, la compétitivité doit être examinée au niveau national, en veillant à prendre en compte en particulier la très forte indépendance que la monnaie unique a créée entre les économies. La compétitivité n'est donc pas seulement une question de création d'emplois et d'élévation du niveau de vie en termes économiques. Elle concerne également le renforcement de la cohésion de l'union économique, qui est essentielle à la prospérité durable de l'union elle-même et de chacun des membres de l'union, dans une perspective de long terme. Mes observations seront donc centrées sur les dispositifs relatifs à la surveillance de la compétitivité dont nous avons besoin dans la zone euro et sur les modalités d'intégration de ces dispositifs dans le cadre de gouvernance économique actuellement débattu par le Conseil et par le Parlement européen. Dans une union monétaire et économique et monétaire, il est crucial d'éviter des divergences importantes et persistantes dans la mise en œuvre des politiques économiques et budgétaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le traité sur l'Union européenne consacre un chapitre entier aux politiques économiques des pays membres de l'Union et des pays ayant adopté la monnaie unique en particulier. Dans cette union économique et monétaire, les pays participants doivent élaborer et partager une même vision de la surveillance économique de chacun d'entre eux. C'est cette vision commune qu'implique l'appartenance à une union monétaire qui recommande que les différentes économies s'assurent qu'elles préservent et renforcent, lorsque cela est nécessaire, leur position concurrentielle relative dans un environnement ouvert, ce qui permet par là même d'assurer la stabilité de l'ensemble. Cette stabilité collective signifie notamment que les politiques macroéconomiques doivent être pleinement compatibles avec la politique monétaire de stabilité, qui est, comme vous le savez, le mandat premier assigné par le traité, assigné par nos démocraties à la Banque centrale européenne. Je voudrais dire un mot sur le fait que compétitivité et refus des déséquilibres internes et externes ne sont pas pour autant synonymes d'uniformité. La diversité dont nous jouissons en Europe est un atout que nous devons nous efforcer de cultiver. Et par diversité, on peut entendre bien sûr la diversité économique, mais aussi la diversité culturelle dont nous jouissons en Europe. Mais ce qui importe, c'est que la diversité n'entraîne pas de divergences excessives persistantes. Et donc, il nous faut, pour éviter leur émergence, un cadre commun garantissant que tous les pays participants, conservant leurs caractéristiques nationales propres, s'engagent à regagner et, le cas échéant, à consolider et préserver leur compétitivité relative. Des politiques économiques nationales inappropriées peuvent engendrer l'apparition d'écarts de compétitivité excessifs entre les membres de l'Union monétaire. Les principaux symptômes de tels écarts sont en général de substantielles accumulations de divergences entre indicateurs de compétitivité en termes de prix et de coûts. Et ceci entraîne notamment des taux d'inflation se maintenant durablement au-dessus de la définition commune de la stabilité des prix dans la zone euro, et s'accompagne naturellement d'une dégradation progressive de la balance des paiements courants. Je dois dire que tous ces éléments ont conduit la Banque centrale européenne à étudier régulièrement la question de la compétitivité, des compétitivités relatives et de leur incidence au sein de l'Union économique et monétaire. À vrai dire, c'est la Banque centrale européenne, alors que le traité n'avait pas prévu de surveillance explicite des indicateurs de compétitivité, c'est la Banque centrale européenne qui a introduit dans la politique européenne le concept de surveillance des compétitivités relatives depuis 2005. Lorsque, en effet, aux alentours de 2005, nous avons constaté des divergences qui s'accumulaient en termes nominaux, en particulier concernant les prix, les coûts unitaires de production et les rémunérations, lorsqu'ils sont apparus significatifs, j'ai adressé au nom du Conseil des gouverneurs une première analyse à l'Eurogroupe, c'est-à-dire à la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Cette première contribution examinait l'évolution des prix et des coûts au sein des différents pays. Le message de divergence qu'elle véhiculait demandait une interprétation, une évaluation et des mesures de la part des autorités. Un groupe de travail du système européen de banque centrale a été créé à la même époque pour étudier plus en profondeur tous ces problèmes de compétitivité des différents pays de la zone euro. Par la suite, nous n'avons cessé de fournir à l'Eurogroupe des mises à jour de cette analyse, des informations sur les coûts unitaires de main-d'œuvre, la productivité, l'évolution sectorielle des rémunérations dans les pays de la zone euro étant fournies régulièrement. Depuis 2007, la BCE effectue un examen régulier et approfondi de l'évolution des différents pays de la zone euro en matière de compétitivité. Laissez-moi vous donner simplement, pour fixer les idées, quelques chiffres qui permettent d'avoir des ordres de grandeur. Entre 1999 et 2009, les coûts unitaires de main-d'œuvre nominaux avaient augmenté de 24% en termes cumulés dans la zone euro dans son ensemble. En Autriche et en Allemagne, ils avaient progressé respectivement de 13% et 8%. En Grèce et en Irlande, ce taux avait atteint respectivement 34% et 38%. Autre donnée chiffrée, la masse salariale du secteur public s'est accrue de près de 40% dans la zone euro entre 1999 et 2009. L'augmentation avait été de 19% en Allemagne, contre plus de 100% en Irlande et en Grèce. Je vais jusqu'à fin 2009, depuis des mesures ont été prises. Soit environ, s'agissant de ces deux pays d'ailleurs, 50% de plus que dans le secteur privé de ces deux pays. Donc je mentionne des évolutions nominales de masse salariale dans les différents pays, avec, comme vous le voyez, des différences tout à fait importantes. Pas sur les prix de l'immobilier résidentiel, qui ont également montré des différences importantes, et sur l'endettement des ménages, où on a eu, au cours de la période, un endettement des ménages qui est passé d'environ 50% du produit intérieur brut en 1999 à 65% en 2009 dans la zone euro, c'est-à-dire une hausse de 30% dans l'ensemble en moyenne de l'Union économique et monétaire. Dans les pays où ce taux s'est le plus alourdi, un doublement a été constaté. Donc ces quelques chiffres nous permettent peut-être de prendre la mesure de ce qui s'est passé sur le plan des évolutions respectives des différents pays. Et je voudrais maintenant peut-être vous dire que je pense qu'il y a des perceptions erronées s'agissant de la compétitivité, et singulièrement de la compétitivité au sein de la zone euro, mais qui sont aussi appliquées à d'autres pays qui ne sont pas dans la zone euro. Et je voudrais très rapidement dire que je ne crois pas que ces perceptions soient justes. Je les crois erronées. Une première perception consiste à dire que seul le secteur concurrentiel importe en termes de compétitivité. J'entends souvent dire « notre économie n'a aucun problème de compétitivité, les entreprises actives à l'exportation se portent bien, les prix à l'exportation sont bas, et de ce point de vue-là, nous sommes compétitifs ». Je ne crois pas que ce soit juste. Deuxième idée, certains prétendent que l'évolution des coûts dans le secteur public n'affecte pas la compétitivité d'une économie. Le secteur public, c'est une modalité en quelque sorte de la première remarque, étant protégé de toute concurrence internationale, l'évolution des coûts et des traitements dans ce secteur influence peu le secteur privé et encore moins la compétitivité internationale des entreprises. Troisième idée, troisième perception que je crois erronée, si nous tenons compte, je cite ce que j'entends souvent, du taux d'inflation actuel, qui est relativement élevé dans l'évolution des rémunérations, nous obtenons une situation qui, au total, est plutôt favorable en termes de modération des rémunérations réelles. Je vais revenir sur ce point qui est évidemment essentiel et qui ne repose que sur la prise en compte de l'inflation nationale et pas de l'inflation moyenne de la zone euro. Quatrième idée, également assez répandue, les comptes de transactions courantes intra-zone euro n'importent pas puisqu'ils ne font que refléter un processus spontané d'optimisation des investissements de la part des épargnants et des investisseurs. Les déficits courants reflètent un jugement positif de la part des investisseurs puisqu'ils traduisent des entrées de capitaux attirées par des rendements plus élevés. On connaît d'ailleurs cette thèse puisqu'elle est souvent appliquée à de grands pays industrialisés eux-mêmes en grand déficit. Cinquième idée, toujours à mes yeux erronée, l'assainissement budgétaire nuit à la compétitivité, l'assainissement budgétaire a un effet négatif sur la croissance et il affecte nécessairement la compétitivité qui est elle-même liée nécessairement à des dépenses publiques significatives dans certains domaines, en particulier, bien sûr, éducation, recherche, développement. Alors, encore une fois, je liste simplement à titre d'exemple, parce qu'il y a beaucoup d'autres perceptions que je crois en effet non justes que je pourrais citer. Laissez-moi me concentrer maintenant sur ce que je pense être des remarques importantes. Et je voudrais revenir un petit peu dans le détail sur ce que je crois et que le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne croit être important dans la perspective, encore une fois, de la compétitivité au sein de la zone euro en particulier. Première idée, le secteur non concurrentiel est aussi fondamental pour la compétitivité d'une économie. Je crois qu'il existe deux raisons principales pour lesquelles le secteur non concurrentiel est fondamental. D'abord, les biens et services non exportables sont des intrants importants dans la production des biens exportables. Une hausse des prix dans le secteur non concurrentiel entraîne une augmentation nécessaire, inévitable, des coûts dans le secteur exposé. Les augmentations des prix et des coûts unitaires de production dans le secteur non concurrentiel se traduisent toujours, en fin de compte, par des pressions à la hausse sur les coûts unitaires de production et les coûts unitaires de main-d'œuvre dans le secteur exposé. Il y a maintenant un bon nombre de travaux de recherche, de travaux universitaires qui documentent très très sérieusement ces effets. Cet effet de second tour exerce une tension à la hausse sur les coûts de production des biens exportables et réduit la compétitivité du secteur concurrentiel. Des données récentes montrent que les pays où la hausse des coûts unitaires de production dans les services et le secteur de la construction a été plus forte que dans l'industrie manufacturière, où ils étaient mieux maîtrisés, ont aussi enregistré une détérioration plus que proportionnelle de leur balance des paiements courants. Et là aussi, nous avons des travaux universitaires qui sont, je crois, très convaincants. Si la croissance des coûts unitaires de production dans le secteur non concurrentiel est constamment plus élevée que dans le secteur exposé, les entreprises exportatrices, évidemment, sont contraintes de resserrer leurs marges bénéficiaires en raison de l'impossibilité pour elles de répercuter l'augmentation du coût des intrants dans les prix mondiaux. Les tensions sur les prix et sur les coûts exercés par un secteur non concurrentiel en croissance conduisent nécessairement les exportateurs à réduire leurs marges. Dans un premier temps, la situation des entreprises exportatrices ne semble pas trop affectée et les prix à l'exportation restent relativement stable, mais le secteur exportateur se contracte progressivement. En fait, il se réduit comme une peau de chagrin, et cela réduit non seulement le poids relatif du secteur exportateur dans l'économie, mais par voie de conséquence aussi, bien sûr, le potentiel de croissance de l'économie dans son ensemble. Deuxième idée que je crois pertinente et sur laquelle je voudrais insister, les coûts dans le secteur public sont plus importants pour la compétitivité qu'on ne le pense habituellement. Dans la zone euro, les traitements dans le secteur public représentent en moyenne plus de 10 points de produit intérieur brut et plus de 20% de la masse salariale totale. La taille même du secteur public indique que les hausses de traitement qui y sont pratiquées ont un effet de signal important pour les négociations équivalentes dans le secteur privé. Naturellement, cette influence dépend des structures des différentes économies. Plus le secteur public est vaste par rapport au secteur concurrentiel, plus les signaux en découlant pour les négociations entre partenaires sociaux dans le secteur privé sont forts, et donc également l'influence sur les coûts unitaires de production. Les données signalent une influence importante des rémunérations dans le secteur public sur les coûts de production du secteur privé dans de nombreux pays de la zone euro. De ce point de vue, les effets d'influence du public sur le privé semblent tout particulièrement notables dans les pays ayant enregistré des hausses importantes et rapides des rémunérations publiques. Dans ces pays, les vives augmentations de coûts unitaires de main-d'œuvre qui s'en suivent dans l'ensemble des secteurs de l'économie et les pertes de compétitivité intra-zone euro ne sont donc pas surprenantes. Là aussi, je donne les références des travaux universitaires qui sont, je trouve, très convaincants. Permettez-moi d'en venir à un point qui, évidemment, pour la Banque centrale, est particulièrement important et sur lequel il me semble qu'il faut communiquer largement, parce qu'il y a peut-être un défaut de compréhension qui pose de sérieux problèmes pour tirer toutes les conséquences de l'appartenance à une zone à monnaie unique. La référence pour les prix de moins de 2% est proche de 2% à moyen terme, c'est-à-dire la définition de la stabilité des prix retenue pour la zone euro, est appropriée, croyons-nous, pour le calcul dans tous les pays des indicateurs d'évolution des coûts en termes réels. Comme vous le savez, et comme j'ai plaisir à le rappeler, je dois dire, le taux d'inflation annuel moyen au cours des 12 premières années d'existence de la monnaie unique s'est élevé à 1,97%. Ce résultat est conforme à la définition de la stabilité des prix de la BCE que nous avions donnée ex ante, à savoir moins de 2%, mais proche de 2%. Ne croyez pas qu'il s'agisse d'une définition surprenante ou qui s'inscrirait dans un contexte international qui serait très différent. Comme vous le savez, la plupart des pays qui poursuivent un objectif de stabilité des prix, le ciblage direct de l'inflation, ont 2% comme ciblage direct d'inflation. Nous donnons comme définition de la stabilité des prix moins de 2, proche de 2. Nous avons produit 1,97. Les États-Unis d'Amérique ont eux-mêmes une définition de la stabilité des prix que le chairman de la Fédérale Réserve résume de la manière suivante, 2% ou légèrement en dessous de 2%. 2% or slightly below 2%. Vous voyez la proximité dans le rapprochement qui existe entre les différentes définitions. S'agissant de notre pays, la France, la définition de la stabilité des prix avant l'euro était moins de 2%. Et chacun comprenait que c'était moins de 2%, proche de 2%. C'était la même chose dans tous les pays qui constituaient à l'époque et qui ont constitué au moment de la création de l'euro le noyau central, si je puis dire, de la crédibilité monétaire. Cette définition est elle-même solidement ancrée dans les anticipations d'inflation à moyen et long terme, ce qui illustre la confiance des agents économiques et de nos concitoyens dans la capacité de la Banque centrale de maintenir la stabilité des prix à moyen terme. C'est ce que nous pouvons extraire à 5 ans ou 10 ans des différents panels, des différents travaux qui sont faits, et aussi d'ailleurs des marchés financiers. La Banque centrale fournit ainsi l'ancrage nominal pour les futures évolutions de prix dans la zone euro dans son ensemble. Naturellement, il est naturel dans une union monétaire que les taux d'inflation puissent varier à certains moments entre les pays participants. Ces différences peuvent résulter de différences dans le niveau de développement économique, dans la position dans le cycle conjoncturel et de chocs qui peuvent venir de l'étranger. Des écarts temporaires par rapport à l'inflation moyenne de la zone euro ne sont donc pas nécessairement une source d'inquiétude. Ils sont un canal d'ajustement potentiel au sein d'une union monétaire. Mais les écarts d'inflation peuvent et doivent devenir une préoccupation très sérieuse lorsqu'ils deviennent élevés et surtout persistants. Pendant une longue période, certains économistes ont expliqué que les taux d'inflation constamment supérieurs à la moyenne de la zone euro, observés dans certains pays, étaient explicables par des effets donc de rattrapage. L'argument avancé était le fameux argument de Balassa Samuelson, les pays à plus faibles revenus rattrapent progressivement les niveaux de productivité réalisés par les économies plus avancées dans le secteur manufacturier, dans le secteur concurrentiel, ce qui pousse l'inflation à la hausse dans l'ensemble de l'économie à travers l'ajustement des rémunérations nominales. Mais je dois dire que de nombreuses données suggèrent que cet effet a été surévalué comme explication des écarts d'inflation dans la zone euro. Dans certains cas, ces différences n'ont pas découlé d'effets de rattrapage, mais ont tenu largement à des politiques macroéconomiques inappropriées et à des phases d'expansion excessive de la demande intérieure financée par l'endettement. Dans le moyen terme, dans le moyen long terme, un taux d'inflation légèrement inférieur à 2% doit donc être la référence au niveau national également. Les coûts unitaires de main-d'œuvre et par conséquent les évolutions des rémunérations, compte tenu des progrès de la productivité du travail, qui sont essentiels dans le processus de croissance, doivent permettre la réalisation de cette inflation moyenne à moyen terme, sauf à prendre le risque d'une perte de compétitivité et donc d'une augmentation relative du chômage par rapport à l'ensemble de la zone euro. Ceci est évidemment totalement vrai des pays avancés qui ne peuvent pas se prévaloir du moindre effet Balassa-Samuelson. En outre, l'utilisation des données nationales d'inflation comme référence pour les rémunérations peut entraîner une spirale persistante en termes nominaux des coûts, des rémunérations et des prix à un niveau supérieur à la moyenne de la zone euro. Ceci provoquerait naturellement une perte progressive de compétitivité et donc inévitablement une hausse du chômage. Et cela explique pourquoi les banquiers centraux, je veux dire tous les banquiers centraux, sont opposés à toutes les indexations en général, en particulier, à toutes les indexations en général, en particulier à l'indexation des rémunérations, tout particulièrement dans une zone à monnaie unique. Permettez-moi d'en venir au point suivant, qui est mon troisième point, je crois, important. Le solde du compte de transactions courantes est un important indicateur synthétique susceptible de signaler l'apparition de déséquilibre et de perte de compétitivité. J'ai déjà indiqué que nous avions là un point très important. C'est vrai que l'on peut avoir des justifications à des différences entre les balances de paiement courants et que des flux de capitaux, par exemple, peuvent favoriser les pays participants affichant de meilleures perspectives de croissance et où les rendements attendus sont plus élevés, soit qu'ils soient dans une phase de rattrapage, soit qu'ils aient mis en œuvre des réformes structurelles avec succès. Toutefois, des déficits courants de plus en plus importants, associés, bien entendu, à des indications sur les pertes significatives de compétitivité, révèle des déséquilibres macroéconomiques et des problèmes structurels plus profonds. Les pays présentant d'importants déficits courants ou présentant une détérioration du solde courant, par exemple, sont souvent aussi confrontés simultanément à des pertes cumulées de compétitivité prix liées à des évolutions de prix et de coûts non justifiées économiquement. Et donc les entrées de capitaux qui caractérisent ces pays, plutôt que de financer des investissements productifs dans le secteur concurrentiel et de favoriser ainsi le dynamisme des exportations et de l'économie, peuvent contribuer à un surcroît de consommation et non d'investissement, à la hausse des prix d'actifs et à un renforcement de l'endettement des ménages et des entreprises. Par conséquent, et ceci est, je crois, important, même si les soldes courants entre les pays d'une zone monétaire, et les pays de la zone euro en particulier, sont d'une nature particulière en raison de l'existence de la monnaie unique, les déséquilibres courants intérieurs sont au sein de la zone euro pertinents pour l'analyse et pour le diagnostic des responsables des politiques économiques. Il constitue en fait l'un des principaux indicateurs du fonctionnement en profondeur de leurs économies. Bien entendu, je ne peux pas ne pas mentionner le fait que des politiques budgétaires saines, des finances publiques saines, sont une condition préalable de la compétitivité durable. Ceci a été reconnu dès la création de la zone euro. Le pacte de stabilité et de croissance a été créé explicitement pour cela. Et je ne mentionne ce point qui va de soi que parce que certains observateurs craignent que l'assainissement budgétaire ne se traduise par un ralentissement de la croissance économique et par des externalités négatives dues aux pressions sur la demande adressées aux partenaires commerciaux. Je dois dire que nous ne partageons pas ces craintes et que nous voyons trois raisons à la Banque Centrale Européenne pour lesquelles l'assainissement budgétaire sera au total bénéfique à moyen terme pour la croissance et pour l'emploi. D'abord, l'expérience passée a montré que lorsqu'on a d'importants déséquilibres budgétaires, les coûts à court terme de l'ajustement en termes de moindre croissance économique sont limités dès lors que l'assainissement s'inscrit dans une stratégie de réforme globale. Les expériences passées nous apprennent aussi que la réussite d'une stratégie d'assainissement budgétaire dépend fortement de la nature des décisions qui sont prises sur le plan budgétaire. Les réductions de dépenses, accompagnées de réformes structurelles favorables à la croissance à long terme, ont généralement constitué la meilleure stratégie, particulièrement lorsqu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'un engagement crédible d'assainissement budgétaire pluriannuel. Un deuxième point est très important, c'est que l'assainissement budgétaire renforce la confiance qui est toujours très entamée par la dégradation des finances publiques, et beaucoup plus qu'on ne le croit lorsque nous faisons nous-mêmes nos enquêtes d'opinion auprès des ménages, par exemple, pour ne pas parler bien sûr des entreprises. Or, la confiance est une condition nécessaire pour la consolidation de la reprise en cours et pour la croissance durable et créatrice d'emplois qui suppose que les ménages aient confiance et eux-mêmes achètent et investissent, que les entreprises aient confiance et investissent et que les épargnants aient confiance et eux-mêmes placent leur épargne parce qu'ils ont confiance. Ceci, je crois, est essentiel. La confiance est un élément essentiel. Naturellement, il y a un troisième argument que je soumets, Monsieur le Président, à votre attention, et qui est celui qui consiste à ne pas perdre de vue que la capacité ultime des finances publiques à intervenir dans des circonstances très difficiles est en effet quelque chose d'essentiel, comme on l'a vu dans la période récente. Nous sommes en période de crise depuis août 2007, vu de notre propre poste d'observation et d'action, et certainement depuis le dépôt de bilan de Lehman Brothers, où nous avons eu le déclenchement, la formidable accélération de la crise mondiale, à la fois financière et économique, la grande dépression a été évitée à l'époque parce que les États se sont mobilisés, les signatures des États étaient crédibles. Et je me permets simplement de mentionner des chiffres qui sont maintenant un tout petit peu oubliés. Nous avons évité la grande dépression des deux côtés de l'Atlantique sans éviter la récession, bien sûr, parce que les États crédibles à l'époque ont consacré 27% du produit intérieur brut de risque du contribuable pour soutenir, empêcher l'effondrement de l'ensemble de l'économie mondiale, à la fois financière et par voie de conséquence économique. 27% de risques sous des formes diverses, options de recapitalisation, options de garanties diverses, options de soutien par des options particulières pour les fameux actifs toxiques. Cela a été très différent de pays à pays, très différent en quantité et en qualité, mais au total, lorsque je consolide les deux continents, c'est 27% du produit intérieur brut. C'est dire à quel point la solidité des finances publiques et la crédibilité des signatures souveraines sont une composante essentielle de la stabilité économique et financière aujourd'hui aussi bien que demain, sachant que l'imprévisibilité de l'irruption des crises économiques et financières, des crises géostratégiques ou des catastrophes naturelles est une de leurs caractéristiques principales. J'avais moi-même publié un article mentionnant explicitement les catastrophes naturelles, imprévisibles par définition, et ceci évidemment se situait avant que le Japon ait été aussi dramatiquement frappé. Mais je crois que nous ne devons pas perdre de vue que le rempart ultime demeure des finances publiques crédibles. Laissez-moi peut-être vous dire un mot, je ne vais pas être long si vous me le permettez, Monsieur le Président, je vois le temps passer, sur les implications pour la réforme du cadre européen de surveillance. C'est en guise de conclusion, si vous voulez bien. Je voudrais simplement dire que dans une union économique et monétaire, comme je viens de le dire, les effets d'influence mutuelle sont importants pour la cohésion de l'Union. Les différents pays doivent tenir compte suffisamment de ces effets. C'est la raison pour laquelle la surveillance renforcée au niveau de la zone euro est indispensable pour que les économies n'accusent pas des retards dus à des pertes de compétitivité qui se traduiraient par des déséquilibres macroéconomiques. C'est le message central de la Banque Centrale Européenne, renforcer la gouvernance, la leçon à tirer de la crise que nous venons de traverser, qui est une crise très, très difficile, pour l'ensemble des pays avancés, pas simplement pour l'Europe, pour l'ensemble des pays avancés, et qu'il y a un certain nombre de choses à revoir. Et c'est ce que font d'ailleurs les autres pays, tous les pays avancés pour l'Europe, et particulièrement pour l'Europe de la zone euro. Il y a en effet, comme leçon principale de la crise, à renforcer la gouvernance, à renforcer la surveillance mutuelle. J'ai abordé il y a quelques instants les évolutions des prix, des coûts et des rémunérations, les déficits courants, les indicateurs d'endettement des secteurs publics et privés. Et je voudrais simplement mentionner les indicateurs de compétitivité qui nous semblent importants dans la perspective précisément de cette surveillance qu'il faut renforcer. Donc je voudrais vous présenter très brièvement les principaux indicateurs que mes collègues et moi-même nous avons retenus après examen d'une gamme assez large, je dois dire, de variables et d'indicateurs. Nous considérons que les indicateurs doivent émettre des signaux d'alerte précoces lors de l'émergence de déséquilibres et de risques de perte significative de compétitivité. Les indicateurs principaux aux yeux de la Banque Centrale Européenne sont en particulier une mesure à long terme de la croissance des coûts unitaires de main-d'œuvre, le taux d'inflation nationale, l'encours de l'endettement extérieur net d'un pays en pourcentage du produit intérieur brut, le déficit courant en pourcentage du produit intérieur brut, les taux d'endettement privé et public et les encours de crédit et leur évolution en cours de crédit du secteur privé. Ces variables sont toutes des indicateurs économiques courants, facilement disponibles dans les statistiques officielles. Nous les considérons comme nécessaires pour établir un premier diagnostic aussi simple que possible qui couvre la plupart des dimensions économiques pertinentes. Et ce tableau de bord d'indicateurs doit aider les Européens à porter leur attention sur les questions essentielles, de sorte que la Commission et le Conseil puissent engager des procédures de surveillance approfondies lorsque certains seuils sont dépassés. La Commission européenne et le groupe de travail associé du Conseil travaillent activement à la mise au point de ce mécanisme d'alerte, qui est basé donc sur un ensemble restreint, concentré, d'indicateurs macroéconomiques. Nous considérons que les propositions formulées par la Commission européenne pour la surveillance, la création d'un pôle de surveillance des politiques de compétitivité, des politiques macroéconomiques, demandent à être améliorées. Nous pensons que ce que propose la Commission est bon pour les 27 et pertinent, et nous pensons que ces propositions doivent et peuvent être renforcées en ce qui concerne la zone euro, donc les 17. Nous pensons premièrement que les particularités liées à l'appartenance à une union monétaire doivent être signalées explicitement. Quand je dis tout cela, c'est le message que nous avons pour les trois participants du trialogue, c'est-à-dire pour, bien entendu, le Conseil, bien entendu la Commission, mais aussi pour le Parlement. Et ceci est essentiel puisque le Parlement lui-même a une clé dans le système de codécision des Européens. Et donc, nous disons qu'on doit signaler plus explicitement le renforcement de la surveillance lorsqu'on est dans la zone euro. Nous voyons des seuils plus stricts de compétitivité nécessaires pour la zone euro. Nous voyons une palette d'indicateurs pour les pays de la zone euro qui devraient se concentrer sur la détection des déséquilibres macroéconomiques et, comme je l'ai indiqué précédemment, sur un petit nombre d'indicateurs très ciblés. Et ces indicateurs diffèrent par nature, que nous croyons indispensable pour la zone euro, de la gamme bien plus large d'indicateurs examinés pour évaluer l'avancée des réformes structurelles dans le cadre de la stratégie Europe 2020 qui vise à renforcer durablement la croissance et l'emploi dans l'ensemble du marché unique pour les 27. Deuxièmement, nous croyons que la pertinence du cadre de surveillance est d'autant mieux préservée que seuls les cas de déséquilibre macroéconomique entravant le bon fonctionnement de l'union monétaire font l'objet de l'attention principale. Le cadre proposé par la Commission européenne est symétrique en ce qui concerne la détection, la prévention et la correction à la fois des pertes excessives et des gains importants de compétitivité. Je pense qu'une approche totalement symétrique ignore un élément important. L'Union européenne et la zone euro ne sont pas des économies fermées. Au contraire, elles constituent les économies de pays avancés les plus ouvertes au monde. Les gains de compétitivité obtenus dans une économie en particulier constituent donc un élément important, très positif, pour l'ensemble des économies membres de la zone euro. Il ne s'agit pas d'un jeu à somme nulle, puisque toutes nos économies sont ouvertes sur le monde. Le risque existe qu'une surveillance en apparence symétrique puisse perdre de vue les défis les plus lourds posés à l'union monétaire, perte significative de compétitivité, déficit courant persistant, hausse non soutenable du prix des actifs, y compris de l'immobilier, et niveau élevé d'endettement interne et externe. Un troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'un degré beaucoup plus élevé d'automaticité nous paraît indispensable dans le fonctionnement concret de la surveillance macroéconomique. Un important pouvoir discrétionnaire du Conseil constitue un risque pour la crédibilité du mécanisme de surveillance si les règles et les mesures adoptées ne sont pas appliquées de manière cohérente. Il conviendrait donc, à nos yeux, de ne pas prévoir de dérogation à l'imposition de sanctions. Nous croyons que ceci est important pour la crédibilité du nouveau concept de surveillance. Et quatrièmement, à l'instar des réformes qui parallèlement sont apportées au pacte de stabilité et de croissance lui-même sur le plan budgétaire, les sanctions financières prévues par le cadre de surveillance macroéconomique doivent être appliquées à un stade plus précoce afin de donner aux pays participants toutes les incitations indispensables au respect des recommandations qui leur sont adressées. Cela signifie que les premières incitations financières, comme le dépôt portant intérêt, devraient être décidées dès le premier manquement aux obligations ou le premier cas de non-coopération de la part d'un pays participant, alors que les propositions actuelles ne prévoient des amendes qu'après un manquement répété par le pays concerné de se conformer aux recommandations du Conseil. Comme je vous le disais, nous avons maintenant un dialogue qui est engagé, ou qui s'engage, en train de s'engager entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Je suis persuadé que le Parlement européen, qui a un pouvoir de codécision, améliorera sensiblement la législation européenne à l'étude. Et j'espère que les propositions que la Banque centrale européenne a formulées seront utiles à cette fin. Monsieur le Président, je conclus. Nous avons un concept pour la compétitivité des 27, du marché unique, qui est la stratégie Europe 2020, elle-même dans la continuité de la stratégie de Lisbonne. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, ce n'est pas le diagnostic qui fait défaut. Le diagnostic est là et il est partagé par tout le monde. C'est la mise en œuvre. La mise en œuvre dans un contexte où, bien entendu, l'ensemble des pays conservent eux-mêmes une grande liberté pour mettre en œuvre ce qui est convenu au niveau de l'ensemble de l'Europe. En ce qui concerne plus particulièrement les 17, c'est-à-dire la zone euro, 17 qui ont d'ailleurs vocation à terme à devenir plus nombreux, qui sont en période de, d'élargissement eux-mêmes, élargissement sur la base de critères parfaitement définis par le traité et auxquels nous sommes nous-mêmes extraordinairement attachés, bien sûr. Mais si je me concentre sur les 17, alors là, clairement, nous avons besoin de renforcer formidablement, si je puis ainsi m'exprimer, la gouvernance, ce qui suppose un changement assez important de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance, c'est-à-dire de la surveillance budgétaire. C'est l'une des très grandes leçons de la crise que nous traversons. Et il faut mettre en place ce nouveau pilier qui n'était pas prévu au départ pour la gouvernance et la surveillance des différentes économies, et qui est la surveillance des politiques macroéconomiques, et tout particulièrement centrée sur la surveillance des évolutions de compétitivité relative. Le diagnostic, là aussi, me semble assez clair, et nous en avons eu tout dernièrement l'illustration avec le rebond, en quelque sorte, du concept de gouvernance, avec le pacte de compétitivité qui a été récemment adopté par le Conseil. Ce que nous recommandions nous-mêmes auparavant et que nous continuons à recommander avec encore plus d'insistance, puisque les gouvernements européens ont dit eux-mêmes qu'ils voulaient aller plus loin en termes de renforcement de la gouvernance, c'est que l'on soit aussi conséquent que possible et qu'à partir de ce concept de renforcement de la gouvernance, on est en effet, au terme de la discussion qui a actuellement lieu entre le Parlement et le Conseil, cette augmentation extrêmement importante de la qualité de la surveillance mutuelle que nous appelons de nos voeux, qui a été négligée avant la crise et qui est la grande leçon, je dois dire, pour les Européens de la crise que nous avons traversée. Tous les pays avancés doivent tirer les leçons de la crise. Il n'y a pas un seul pays avancé qui puisse dire qu'il n'y a pas des leçons à tirer de cette radiographie au rayon X à laquelle nous avons tous été soumis. Mais pour la zone euro, c'est clair, le message est renforcement très important de la gouvernance. Merci, Monsieur le Président.
Vous venez d'entendre Jean-Claude Trichet de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous pouvez également écouter une autre émission au cours de laquelle Jean-Claude Trichet dialogue avec ses deux confrères Thierry de Montbrial et François d'Orcival sur Canal Académie.